Eh bien, bonsoir à tous. Et en disant tous, évidemment, je veux dire aux auditeurs et aux auditrices, puisque maintenant il faut bien préciser les choses en vertu de la parité qui est devenue une espèce d'obligation nationale. Alors, les auditeurs seront peut-être un peu surpris d'entendre ma voix, qui n'est pas celle de Serge Beketch. Nous avons eu un arrangement cet après-midi, après une très longue négociation de cabinet. Eu gars au fait que chaque fois qu'il m'invite, il me prend 6 minutes. On a calculé ce que ça faisait sur l'année. On s'est dit, ça fait 1h30. Donc je prends 1h30. Il y avait un film comme ça, on rigole, mais il y avait un film qui était très beau. C'était un film avec Pierre Freinet, mais je me souviens plus du titre de ce film. Il voulait chez son boucher en disant, monsieur, vous me vendez, tous les dimanches, j'achète un gigot d'agneau. Et vous me l'emballez dans du papier, un double papier, mettez de la ficelle et vous me faites payer la ficelle et les deux papiers d'emballage au prix du gigot. J'ai fait mon calcul. Il y a 1,5 kg, ce gigot aujourd'hui, je ne le paye pas.
C'est et le marchand de Venise peut-être?
Non, c'est pas le marchand de Venise. Non, c'est quelque chose qui se passe tout à fait chez nous. On est d'entendre la voix mellifluée de notre camarade Emmanuel Ratier. Alors bonjour ma petite Victoria.
Bonjour, cher Daniel.
Voilà, heureux de vous retrouver.
Toujours heureuse.
Ça va même, vous êtes content de nous voir quand même.
Oui, bon. Je ne fais plus attention.
Alors ce soir c'était le... C'est d'ailleurs ce sera. ce sera le clan de la presse que réunit une fois tous les mois, je crois, notre camarade Serge. Et les habitués sont fidèles au poste et fidèles à ce studio. Alors je vais les... voilà, c'est très bien. Je vais donc présenter les intervenants en partant de la droite. Comme ça, personne ne sera choqué et jaloux. Le dernier cité aura du souci à se faire, hein, parce qu'il sera vraiment à l'extrême droite de ceux que je vais noter. Alors je commence par ma droite, c'est Henri de Fersan.
Bonjour.
Voilà, qui vient alors à double... Vous avez une double casquette ce soir?
Ce soir,
par la force des choses.
Par la force des choses, oui, en raison de l'absence de Serge, double casquette. Donc en tant que directeur des lettres Fersan, mon mensuel, et également en tant que représentant du libre journal de la France courtoise, en tant que plus vieux collaborateur du journal après Serge.
Voilà. Un collaborateur de poids.
Si
puis-je dire. Bon, notre ami Camille Gallic aussi est là présente. Bon, Camille Gallic, c'est une honte de la présenter aux auditeurs parce qu'elle est connue comme le houblon, comme disent les brasseurs, non?
Ah oui, oui.
Oui. Bon. Enfin. Elle dirige donc l'hebdomadaire Rivarol, bien connu de nos auditeurs. Et puis Jean-Claude Varane, qui est le directeur, rédacteur en chef, directeur de la rédaction de National Hebdo. Voilà. Ça va mieux? Vous voulez peut-être un petit peu d'eau, Camille, non?
J'en ai, merci.
Bon, très bien.
Et je demande aux auditeurs de me pardonner.
Ben voilà, on est tous... Alors, dont je plaisantais tout à l'heure pour notre camarade Beketch, en fait, il est souffrant. Bon, c'est pas grave, mais non. C'est handicapant, il peut pas se déplacer.
On espère tous qu'il se rétablira très vite.
Oui, mais moi pas de trop. Alors, ça, je vais être tranquille pendant 15 jours.
À vous de négocier avec lui.
C'est tout négocié, déjà. Bon, ensuite, bien sûr, Emmanuel Ratier, qui est le directeur de la lettre confidentielle. C'est un bimensuel, c'est ça, hein, on dit casomadaire, mais il paraît que ça ne fait pas très français.
Non.
Qui est une lettre très bien informée.
Oui, qui paraît tous les 15 jours.
Qui s'appelle, Faits et documents. Faites bien la liaison, parce que ce soir, vous avez une institutrice, là. Vous tapez la prise à règle, ce soir, vous tapez sur les doigts. Faits et documents, qui est une lettre aussi très très bien informée. Et qui se double d'ailleurs d'un petit service sur Internet. On reçoit en plus des extras qui ne sont pas dans votre lettre.
Oui, oui. Une lettre internet qui devient de plus en plus importante.
Avec qui sont extrêmement savoureux, qui sont savoureux, et on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, Jean Madiran, qui est le directeur du seul quotidien, du seul quotidien français.
On peut dire du seul de la France française.
Bah voilà, donc c'est bien ce que je dis, c'est le seul quotidien français. Oui. Voilà. Tous les autres, donc l'apparence de la... De la nationale. Victoria, non, vous n'avez rien à dire de particulier ce soir?
Non, rien de particulier. Bon. Un auditeur, tant pis, c'est bien fait, vous m'avez provoqué. Peut-on espérer, nous dit cet auditeur, ce soir, entendre un peu moins M. Amiche et beaucoup plus ses invités? Et pense sur le Amiche.
Faire de la radio pour ne rien dire, et... c'est vrai. Prochaine fois, Serge m'a dit que la prochaine fois, ce serait Mime Marceau qui viendrait animer l'émission à ma place. Et donc, comme ça, alors, les gens ne seront pas du tout gênés par les bruits que
pas
fait...
de pollution.
Alors, il paraît que nous sommes en campagne présidentielle, d'après les gazettes, puisque il m'arrive de lire souvent vos journaux, et je m'aperçois que vous en parlez aussi. Alors cette campagne, c'est quand même... Enfin, moi, je fais juste un commentaire, puis après, je vous passe la parole, et puis vous ne me voyez plus jusqu'à 7h30. C'est quand même la campagne présidentielle la plus débile qu'on ait jamais vue de mémoire de 5e République. Non, Camille Gallic, on commence au Rodin.
Elle est extrêmement poussive, en tout cas. Et elle réserve peu de surprises.
J'aime parce votre sens de la litote tout britannique.
Parce que j'ai peine à croire que Madame Christiane Taubira soit le phénix de la forêt amazonienne qu'on nous dit et qu'il paraît qu'elle apporte un souffle nouveau dans la campagne et qu'elle pourrait être l'une des très grandes surprises du premier tour. Jusqu'à présent, je ne m'en suis pas aperçu.
Je crois qu'elle est à 0,5% d'intention, ce qui même en euros d'ailleurs ne pèse pas lourd quand même, il faut dire. Par contre, elle avait un très très joli slogan de campagne qu'ils ont changé parce que c'est plus le même maintenant. C'était un slogan qui a fait mes délices et sur lequel d'ailleurs je me suis essayé ma plume, c'était la République, ma patrie. Enfin, je trouve ça absolument admirable. Je trouve ça vraiment admirable.
Moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Marie Gallic. Je pense que c'est quand même une élection qui va se jouer avec beaucoup d'importance. Et il n'est pas dit que les deux grands candidats que l'on met à l'heure actuelle en place soit au deuxième tour. Si nous regardons quand même les sondages, Monsieur Jospin descend, puisqu'il serait autour de 18. Monsieur Chirac, pour le moment, se maintient autour de 20. Et moi, je voudrais quand même faire un appel solennel des idées que nous défendons, les idées de droite, les idées de la France française. Il y a un troisième personnage qui est maintenant est en place, qu'on met pour le troisième homme, qui peut-être aussi passer deuxième, et qui est quand même à l'heure actuelle à 13 ou 14%. Et je crois qu'il ne faudrait pas que nos électeurs et nos auditeurs se trompent de vote. Il y a un vote utile. Bon, on peut peut-être reprocher à Jean-Marie Le Pen certaines choses, mais à l'heure actuelle, il est placé en troisième position et il ne faut pas se tromper dans cette campagne. Il faut lui donner ses chances. Il y a d'autres petits candidats qui sont à 1,5. Bien, mais à côté de 13, 14 ou 15 ou 16% de Jean-Marie Le Pen, il faut faire un vote utile. Voilà ce que je voulais dire.
Bon, là, je suis d'accord sur les statistiques que vous annoncez, mais là, on va discuter peut-être plus généralement de la campagne elle-même, de ce qui vous a surpris, de ce qui vous a choqué, vous journaliste. Alors peut-être Emmanuel, un petit commentaire à faire.
Oui, bien tout d'abord, enfin, je pense qu'on peut constater c'est que la campagne est particulièrement atone, sans relief, mis à part quelques personnalités, par exemple comme Jean-Marie Le Pen qui a été cité. Les programmes, tous les auditeurs, enfin les électeurs se rendent compte que les programmes sont pratiquement identiques entre les deux grands partis. Et à la fois, la personne qui se trouve à l'Élysée et la personne qui se trouve à Matignon, à la différence d'autres périodes de l'histoire, se révèlent absolument incapables de cristalliser sur leur nom ou sur leurs idées un nombre important d'électeurs au premier tour. Et le second tour va être véritablement un vote d'opposition à quelqu'un. Par exemple, un certain nombre d'électeurs, entre guillemets, de droite, vont voter contre Jospin et certainement pas pour telle ou telle personne qui pourrait se trouver là au second tour. Et je pense que il y a 16 candidats. Ces 16 candidats ont eu beaucoup de mal, on l'a vu pour un certain nombre, à avoir leurs 500 signatures.
Enfin, il y a deux candidats et les autres.
Voilà. Mais ces 500 candidats, ces 16 candidats, tous tiennent la route. Il n'y a aucun farfelu. Il n'y a pas de membre du parti de représentant du parti de la loi naturelle ou des trucs.
Mais qu'est-ce que vous avez contre la loi naturelle,
Ratignon? Je sais, on va voir évidemment quatre auditeurs.
De la méditation transcendantale.
Mais on va voir évidemment quatre auditeurs qui vont téléphoner pour protester. Mais dans l'ensemble, y compris, bon, même Daniel Gluckstein, par exemple, du Parti des Travailleurs, ils ont tous un programme qui tient la route. On a un éclatement des choix avec Taubira Delannon, dont on parlait tout à l'heure, se présente pratiquement maintenant comme la représentante des minorités ethniques, à la fois dans l'Hexagone et à l'extérieur.
C'était depuis tout le début de
sa
campagne.
On a M. Saint-Josse qui se présente maintenant comme le défenseur de la ruralité, c'est-à-dire les gens qui habitent dans les campagnes. Jean-Pierre Chevènement se présente comme une espèce de républicain de gauche. Et on n'a plus aucunement l'intérêt national qui est défendu par qui que ce soit, pratiquement. Ça, on a un éclatement complet des candidats. Et je répète bien que chacun tient la route. Beyrouth tient la route, Madelin tient la route. Ce ne sont pas des rigolos qui se retrouvent là. Et chaque auditeur enfin, peut faire le compte. À mon avis, sur, quand on prend, hormis Jacques Chirac et Lionel Jospin, il suffit de prendre les 14 candidats, vous leur donnez le score minimal qu'ils peuvent obtenir, vous faites ça autour de votre table, vous arrivez à plus de 60%. Donc ça veut dire que les deux candidats, l'autre de l'Elysée, l'autre de Matignon, normalement, devraient faire moins de 40% au premier tour, ce qui est catastrophique.
Pour eux, catastrophique pour eux.
De la Rade.
Oui. Non, catastrophique pour la France, parce que ça prouve qu'il n'y a absolument aucune adhésion, même si ce sont des gens de gauche ou de droite ou quoi que ce soit, il n'y a aucune adhésion. Les gens ne se retrouvent pas dans les gens qui les gouvernent. Donc c'est très très inquiétant pour l'avenir.
Il y a 42%, il y a eu un sondage qui a été fait, il y a 42% de Français qui n'ont pas encore choisi leur candidat. Il faut bien le voir. Et effectivement, ce que dit l'ami Ratier, c'est bien vrai, c'est qu'entre le discours de Jospin et le discours de Chirac, il n'y a vraiment pas quelque chose de très net qui les sépare. Bon, ils ont pris l'insécurité qui est le programme du Front National depuis des décennies. Et je crois que Ratier a raison dans cette affaire. C'est une élection qui, pour le moment, ne passionne pas. Mm-hmm. Ne passionne pas. Alors, bon, à part les ragots des uns et des autres, il n'y a vraiment pas de, je crois. C'est pour ça que c'est une élection qui va se jouer, à mon avis, au deuxième tour sur un fil de rasoir, c'est sûr. Mais nous, nationaux, nous devons essayer de pouvoir que le candidat que nous représentons, tout au moins je l'espère, autour de cette table, puisse être troisième et peut-être deuxième, pourquoi pas. On n'en sait rien. Voilà.
Alors, il y a eu le séisme de 1988, il pourrait y avoir le séisme de 2002.
Oui, alors je donne la parole à Henri de Fersan pour pouvoir... Voilà, Henri de Fersan, faites un commentaire
oui.
si vous le souhaitez.
Dans la campagne électorale, bon, c'est sûr que entre les deux pitres, comme je les avais appelés le mois dernier, il n'y a pas grande différence, mais il ne faut pas aussi voir que cette campagne présidentielle peut amener, notamment à gauche, à une certaine recomposition politique. Et il y a une question qui, à mon avis, est à gauche. Ce qui est pour moi la grande inconnue des présidentielles, est-ce que Arlette Laguillier fera un score supérieur à celui de Robert Rue?
C'est sûr, mais elle ne montera pas jusqu'à 10%. Moi, je la situe autour de 7%.
Oui, parce que d'autant
plus... Ce qui est quand même une claque pour le Parti communiste. Voilà.
Une claque considérable oui. et qui risque d'obérer considérablement son avenir financier, d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus l'or de Moscou. Les chiffres de déficit des comptes des partis ont déjà montré un déficit de 26 millions d'euros pour le Parti communiste en l'an 2000 qui risque de s'aggraver en 2001 et bien évidemment le Parti communiste comptait sur les présidentielles et les législatives pour se refaire une santé pour 2002. Or il n'est même pas sûr maintenant que U franchisse la barre des 5%, et donc et la dotation de l'État qui est assez considérable qui est versée aux candidats ayant fait plus de 5%.
Là il serait difficile peut-être entre les deux tours de changer la loi électorale comme on avait d'ailleurs changé la composition du nombre,
c'est une blague, ça c'est une loi organique, c'est plus difficile de
changer. Je crois qu'on avait changé autrefois là, pour avoir qu'ils étaient un groupe,
voilà,
on avait changé la loi, mais là ça va être très compliqué.
Il n'est pas exclu qu'à l'issue des prochaines législatives la loi soit remaniée pour qu'on descende le niveau minimal pour constituer un groupe à 10 si le Parti communiste n'avait que 10 députés.
Jean Madiron, peut-être avez-vous un commentaire à faire.
Moi, en commençant, je dirais d'abord que je n'ai jamais eu, et je n'ai toujours pas, la moindre confiance dans les sondages, qui évidemment s'impose même malgré moi, il s'imposerait à moi psychologiquement à cause du côté péremptoire de l'affirmation chiffrée. Mais d'abord, leur escroquerie est évidente. Quand nous apprenons que un tel monte ou descend à 17,5, qu'ils osent encore nous donner des décimales, c'est que ce sont des escrocs. et des escrocs qui s'affirment comme tels, ils ne craignent pas de s'affirmer comme tels, car eux-mêmes, dans des éditions un peu plus spécialisées sur LCI il y a quelque temps, reconnaissaient qu'avec le panel qu'ils ont, il y a une incertitude au minimum de 3 en plus ou de 3 en moins, et probablement davantage. Alors si à chacun des chiffres des sondages que nous avons sous les yeux, nous rétablissons la vérité, à supposer que l'ensemble de l'opération ait été menée avec une grande honnêteté, une grande prudence, mais c'est supposition que je ne me risque pas à faire. Mais pour le moment, nous parlons simplement de ceci, qui est déjà le point de l'escroquerie, le point le plus manifeste de l'escroquerie. C'est que si nous ajoutons à chacun de ces sondages les 3 points en plus et les 3 points en moins, si nous rétablissons des fourchettes comme ça devrait l'être, nous voyons que leur valeur comparative disparaît presque complètement. Par rapport et nous voyons combien, si on donne un seul chiffre, il est possible, honnêtement, entre guillemets, à l'intérieur de cette variation d'au moins 6 points, sinon davantage, il est possible de faire monter ou descendre quelqu'un à volonté. Alors on dira, mais il y a quand même une certaine convergence dans les sondages, si c'est pas scientifique, cette convergence, elle est quelque chose de miraculeux. Mais ce n'est qu'un cas particulier du phénomène médiatique, où dans tous les domaines nous voyons des convergences qui ont quelque chose de miraculeux si on n'en trouve pas l'explication. La pensée unique se fait aussi dans les sondages par accord entre eux, bien évidemment. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur ce point, mais qui vous explique que je ne peux pas commenter quant à moi la montée ou la descente des uns ou des autres. Il est certain que sans les sondages, même sans les sondages, d'accord, viennent à l'appui avec le côté péremptoire de chiffres. Nous avons affaire à deux candidats officiels. Deux candidats officiels, la nouvelle forme de candidats officiels, c'est Jospin et Chirac. Et s'il était vrai, si les suffrages vérifient que ces deux candidats officiels arrivent en tête, qui ne sont pas chamboulés tous les deux, c'est que vraiment la puissance médiatique est encore plus grande. Elle approche même de la puissance de Dieu, qui consiste à faire quelque chose avec rien ou à partir de rien.
Je crois que
je ne vous ai pas interrompu, mon cher ami.
Vous avez raison. Je crois que il y a une escroquerie en plus, c'est d'avoir la possibilité de faire des sondages jusqu'au dernier moment. Moi, je pense que 15 jours avant, il ne devrait plus y avoir de possibilité de faire des sondages. Car effectivement, comme vous le dites très justement, Président, ça peut influencer dans un sens ou dans l'autre.
Notre ami Varane est supposé avoir parlé avec l'autorisation de celui qui avait la parole.
Bien.
Mais c'est pas contradictoire.
Je disais...
Poursuivez.
Je poursuis mon idée. Donc, je trouve tout à fait comme Camille Galli que ce qu'on appelle ce débat, ou cette absence de débat, ou cette confrontation, est d'un niveau d'une grande médiocrité, dans la plupart des cas. Il y a aussi peut-être, nous sommes à la suite d'une illusion. Vous remarquerez que quand il y a une situation difficile, on ne dit pas il y a une situation difficile, on dit il faut qu'il y ait un débat. Mais un débat n'est pas une solution à une situation.
C'est la forme nouvelle des commissions.
Oui.
Ce que l'on crée pour...
C'est le degré zéro de la politique, il n'y a plus de personne n'a pas de responsabilité.
Sur la médiocrité, je voudrais dire une chose qui n'est pas pour plaire à Varane et qui peut-être lui déplaira. C'est que je ne me sens pas du tout engagé par les paroles qu'il a prononcées à l'égard de son candidat. Mais que je dois reconnaître que, presque toujours, les déclarations de Jean-Marie Le Pen échappent à cette médiocrité intellectuelle générale. Vrai aussi des déclarations, de certaines déclarations de Maigret, à mon avis. Mais ça, c'est une autre chose qu'il faut reconnaître et dont je pense, malheureusement, que dans le tissu, ou plutôt la dissociété, la démolition du tissu démocratique, qu'elle n'aura pas une grande importance, qu'elle risque de ne pas avoir une grande importance sur le résultat. Et en tout cas, dernier mot, il se passe quelque chose de tout à fait important pendant cette campagne, mais hors de cette campagne. Et ça, c'est une réalité. C'est que la décomposition s'aggrave terriblement. Qu'il s'agisse de la criminalité, qu'il s'agisse des problèmes communautaristes, qu'on soit partisan d'une organisation communautaire ou non communautaire, jacobine ou décentralisée, peu importe, dans un cas comme dans l'autre, on suppose que ce sont des communautés ou des absences de communautés qui vivent pacifiquement. Or, nous nous tournons le dos à grands pas à des communautés installées sur notre sol qui se tolèrent ou même vivent pacifiquement. Les phénomènes de mafia, de drogue, etc. Et je voudrais saluer quelqu'un pour qui je ne voterai certainement pas, ni en dégagerai à voter, mais je voudrais quand même saluer Bérouk, dont vous avez vu que, ayant eu l'accueil qu'il a reçu, il est descendu en face des jeunes, et que comme il y en avait un encore plus jeune, et qui était en train de lui mettre la main dans sa poche, je crois pas du tout pour une incitation pédophile, mais plutôt pour un larcin, m'a-t-il semblé, il lui a donné une belle claque. Et il a dit, j'ai agi en beau-père de famille.
Oui, bon,
il ne se doute peut-être pas qu'il est là la preuve qui va, d'une action judiciaire qui risque, avec ce que sont devenues nos lois et nos mœurs, d'une action judiciaire pour violence sur enfants.
C'est possible.
Par un comité d'avocats de telle ou telle association.
Au risque, je vais vous couper un petit peu
non,
la parole.
Fini. Genre, hein. Point à la ligne pour le moment.
Parce que maintenant, il faut donner un peu la parole. On va revenir, hein. On a le temps là jusqu'à 7h30. Il faut donner un petit peu la parole aux auditeurs.
Ils sont quasi d'accord.
Eux s'expriment aussi.
Ils sont d'accord les uns avec les uns et les autres. Ce sont ceux qui nous gouvernent qui ont trahi la France et qui sont responsables de tout ce qui arrive en France. Ne gâchons pas nos chances. Il est possible de faire échec à Jospin et Chirac. Allons-y carrément et votons Le Pen qui les talonne. Je trouve que les deux meilleurs prétendants à la présidence de la République qui ont des messages concrets à faire passer sont Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret. Dommage qu'ils se soient séparés. Jusqu'à hier, je votais Le Pen pour lutter contre la délinquance. Maintenant, je vote Bayrou, car il a un vrai programme. Filet des baffes au beurre délinquant.
Il va monter dans les sondages.
Il
est parti de très bas aussi.
Il faut élire un président qui réconcilie les Français.
Voilà. Ah bah ça, c'est le roi qui peut réconcilier, c'est pas le président par définition. Oh, enfin oui. Bon, notre vaste sujet. Et le roi ne peut pas être élu. Donc voilà, c'est la quadrature du cercle.
Il a bien été élu quand même.
Comment ?
Il a bien été élu par ses pairs.
Qui ?
Le roi.
Ah oui, voilà, d'accord. L'élection du capitaine.
Être élu par ses pairs, c'est autre chose que d'être élu par les maires.
C'est tout à fait la même chose. Bon, vous brûlez d'impatience de prendre la parole, camarade.
Non,
Martier, prenez la parole.
Non, parce que. On ne va pas dire qu'on va prendre de l'élévation dans ce débat, parce que c'est un débat politique, donc il ne peut pas être très élevé.
Oh, si, si.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, je pense, moi en tant qu'observateur, l'arrêt de la démonisation de Jean-Marie Le Pen, depuis un certain nombre de semaines, avec un certain nombre de personnalités dont on ne s'attendait pas du tout qu'elles prennent sa défense, pour qu'il puisse se présenter vu le problème des signatures qu'il avait. Et on a vu, par exemple, Noël Mamère qui dit qu'il est absolument opposé, mais qui, d'un autre côté, bon, dit que c'est normal qu'il se présente. On a même eu Lionel Jospin. Bon. Et je pense que la personnalité actuellement qui est dans l'œil du cyclone, Henri de Fersen ne l'exprimait pas de cette manière-là tout à l'heure, mais c'est Arlette Laguiller, que moi je crédite de beaucoup plus de 7%. Je la place au-dessus de 10 actuellement, elle va peut-être baisser, mais il y a une forte attirance pour Arlette Laguiller.
À quoi c'est dû,
ce qui explique
Emmanuel.
Que comme elle fait partie d'une organisation trotskiste véritablement extrêmement spécifique dans l'univers du trotskisme français, qui a quand même la particularité de présenter au moins 4 candidats trotskistes ou ex-trotskistes, parce que Lionel Jospin l'a été pendant 25 ans.
Comme les mousquetaires, ils sont 4.
Gluckstein, Parti des Travailleurs. Olivier Besancenot, Ligue communiste révolutionnaire. Et vous avez également Daniel Gluckstein, membre du Parti des Travailleurs. qui ont un certain nombre d'ailleurs d'autres qualités en commun ou de caractéristiques. Okay, et ce qui est particulier pour Arlette Laguiller, c'est qu'elle est véritablement l'ennemi numéro un dans les journaux et les médias tractionnés par le pouvoir en place. Et c'est pas du tout un hasard si il paraît par exemple des chroniques d'une page dans Libération avec une pétition où on accuse Arlette Laguiller d'être membre d'une secte, par exemple. Bon. Ou,
ce qui en soi est pas totalement faux non plus, même
je
si ça vient
que
de Libération.
C'est totalement faux. Oui. C'est, l'Union communiste n'a strictement rien à voir avec une secte. Parce qu'il n'y a aucun côté nouveau mouvement religieux ou quoi que ce soit à l'intérieur. Il faut arrêter d'utiliser le terme secte à propos de n'importe quoi. C'est extrêmement spécifique. Bon, on va pas en parler ce soir, mais ils ne déplacent pas les gens de pays à pays. Ils n'utilisent pas des gens qui sont faits psychologiquement. Ils cherchent surtout à avoir peu de membres et qu'ils soient sûrs. Or, les sectes qu'ils cherchent, c'est au contraire à recruter. Donc ça n'a rien à voir avec une secte, Lutte ouvrière. C'est pas pour ça que c'est pas dangereux. D'ailleurs, les gens croient que ça s'appelle Lutte ouvrière, c'est le nom du journal. En fait, c'est l'Union communiste. Et ce qu'il faut dire, bon, je pense qu'Henri va en parler, ou Camille, c'est que c'est une femme qui, en 1974, quand elle était candidate pour la première fois, n'était même pas membre du comité central de l'Union communiste. C'est-à-dire que c'est, les gens qui arrivent là-dedans prennent un pseudonyme. Ils ne connaissent pas le nom des autres. Il leur faut plusieurs années pour qu'ils soient acceptés à l'intérieur d'une cellule. Ils versent entre 10 et 15% de leur salaire. C'est des choses comme ça où ce sont des gens très très spécifiques. Et comme ça inquiète un certain nombre de gens, notamment Lionel Jospin, parce que évidemment les gens qui vont voter pour Lutte ouvrière vont pas certainement peu voter pour Lionel Jospin au second tour, et bien évidemment les médias qui sont occupés très très largement par d'anciens militants trotskistes, hein, mais qui sont quand même passés de l'autre côté du Manche, plutôt du Manche, l'endroit où il était bien beurré et le portefeuille bien garni, maintenant tapent à Boulet-Roux, envoie des boulets sur Arlette Laguiller.
C'est-à-dire ici la branche sur laquelle il s'était préalablement assis, en quelque sorte.
Ce qui explique que des révélations...
Henri
de Fersen. Voilà, ce qui explique les révélations qui ont été faites sur Arlette Laguiller et son parti sur l'Union communiste par les médias, révélations qui se sont tout juste données la peine de cueillir dans nos journaux, qui avaient fait les mêmes révélations depuis de nombreuses années déjà. Et c'est vrai que cette attaque contre Arlette Laguiller repose sur un double intérêt pour les médias du pouvoir. Le premier, comme le disait Emmanuel, c'est de l'empêcher d'avoir trop de voix pour des voix qui se reporteraient très mal sur Lionel Jospin au deuxième tour. Et le deuxième, c'est d'essayer de limiter le désastre et pour plagier le titre d'un film, essayer de sauver le soldat Robert Rue en diminuant au maximum le score d'Arlette Laguiller. Ce qui permettrait de comprendre, entre parenthèses, pourquoi Gluckstein et Besancenot ont obtenu leurs 500 signatures aussi facilement, c'est que chaque voix qui ira à Gluckstein et à Besancenot, ce sera une voix de moins pour Laguiller.
Je trouve que c'est séduisant, mais c'est trop séduisant cette analyse. Enfin, pour moi, hein, encore une fois, je suis que je suis loyal dans cette affaire, mais je trouve que c'est trop séduisant, comme je vois, je sais pas. Enfin, ce qui m'étonne, moi je suis un lambda, donc ce qui m'étonne, c'est de voir que, avec beaucoup de facilité, trois candidats de trois obédiences trotskistes, parce que si je dis secte trotskiste, Emmanuel va finir par m'arracher les derniers cheveux qui me restent sur la tête, ont réussi très facilement à avoir chacun plus de 500 parrainages, et que d'autres candidats qui sont quand même plus installés dans le paysage politique français, je pense à Jean-Marie Le Pen ou je pense à Bruno Maigret ou à d'autres, ont eu quand même, semble-t-il, je ne suis pas au bureau qui s'occupe de trouver des parrains, mais ont eu quand même beaucoup beaucoup de mal et ils l'ont eu comme ça au dernier moment.
Si vous permettez, on ne risque rien dans l'ordre de la diabolisation par le régime, on ne risque rien à donner sa signature à Arlette Laguiller, et je me suis même demandé s'il y en a qui pour qu'on les embête plus à dire que si leur donne la voix à Chirac plutôt qu'à Bayrou plutôt qu'à Jospin, etc., se sont dit mais moi je peux en donner qu'une fois, je l'ai donné à Arlette Laguiller, ça n'engage à rien. Le problème des trotskistes, enfin il y a plusieurs problèmes des trotskistes, mais il y en a un que je voudrais soumettre à cette assemblée, et notamment aux membres les plus compétents de cette assemblée, pas un problème, une remarque, c'est qu'il y a des trotskistes et d'anciens trotskistes. Bien. Mais sans juger du point de savoir si anciens ou non, ils sont vraiment anciens, un peu anciens, ou si Trotsko une fois, Trotsko toujours, bien, Trotsko un jour, Trotsko toujours, sans juger ça, en les prenant tous. C'est-à-dire des gens d'origine trotskiste, qu'ils soient restés ou non. Mais je constate que là, l'installation dans les médias, dans les organes de pouvoir, dans les syndicats, y compris le MEDEF, de gens qui sont d'origine trotskiste et sans commune mesure avec l'importance numérique dans les diverses générations des trotskistes qu'il y a pu y avoir. Il y a donc les gens d'origine trotskiste ou non, qui débordent énormément dans les organes dirigeants de la société. Mmh. Et alors, à l'intérieur de ce débordement, de ce climat, je ne suis pas étonné que 4 candidats trotskistes, 5 candidats trotskistes, ça voudrait trouver en chacun leur 500 signatures. Outre le fait que, justement, la diabolisation ne va jamais dans leur sens.
Camille Gallic.
Moi, ce qui me frappe quand même, c'est ça a été ce que les sondages... je suis assez d'accord avec Jean sur la fiabilité des sondages, surtout quand on voit ce qui vient de se passer en Hongrie, où on donnait la majorité absolue à la Fidesz du Premier ministre Orban et 10% au MIEP de Csurka. Et finalement, Csurka n'a pas passé la barre des 4%. Et le Premier ministre est en ballottage assez défavorable, au profit malheureusement des socialistes ex-communistes. Bon, donc là, il y a, même si le système des sondages en Hongrie est beaucoup moins affûté qu'il ne pourrait l'être en France, ça montre l'échec total des sondages. Mais c'est si on prend quand même par comparaison les chiffres de Laguiller et des autres candidats trotskistes avoués, ce que je trouve terrifiant, c'est la supériorité de Laguiller dans les sondages. Parce que des 3 candidats trotskistes, elle est visiblement la plus limitée intellectuellement. Gluckstein est un Everest de la pensée et de l'expression à côté. Or, cette fille qui tient un discours extrêmement limité, enfin, comme dit Françoise Char, avec, je trouve, une très bonne expression, de toutes les langues de bois, c'est la plus ligneuse. C'est vraiment terrifiant qu'elle arrive à séduire un dixième de l'électorat. Enfin,
la propagande se fait en 400 mots. Hein.
Oui, c'est vrai.
Mais ça montre, je crois que ça montre la dégénérescence de l'opinion publique.
Et le pouvoir de la notoriété médiatique.
Voilà, je pense que ça, c'est
la notoriété antérieure.
Mais je crois aussi l'abêtissement généralisé du peuple français. Et ça, je trouve que c'est extrêmement... Pour moi, c'est le plus grave. Mmh. C'est comment des gens, même... par boutade, même par dégoût, même de n'importe quelle manière, envisage de voter pour une personnalité aussi limitée et visiblement limitée.
À combien était monté Coluche ?
C'était autre chose.
Ouais. Mais là, il y a quand même... Ouais, enfin, ce que dit Victoria est assez exact, parce que Arlette Laguiller a un trait... effectue une remarquable percée, comme elle l'avait déjà effectuée aux dernières présidentielles, chez les cadres supérieurs, les cadres, les intellectuels, etc., le professorat. Donc justement, on pourrait dire que plus les gens ont de diplôme, plus ils ont envie de voter Arlette Laguiller. C'est peut-être une forme de masochisme.
C'est une régression au stade anal, je n'y peux rien. Enfin,
aux dernières présidentielles,
ça me paraît une régression épouvantable.
Mais les plus diplômés, justement, parce que le problème de l'éducation nationale, c'est qu'il vaut mieux n'y rien apprendre. Ceux qui n'y apprennent rien seront les moins diplômés, mais ils seront les moins abîmés intellectuellement.
Oui. Oui, bon. Voilà.
Henri de Fersan a levé le doigt depuis 5 minutes.
Il faut savoir, au sujet d'Arlette Laguiller, il faut savoir qu'aux dernières présidentielles, les 3 arrondissements de Paris où Arlette Laguiller avait fait les plus gros score, c'était les arrondissements bourgeois, à savoir le 8e, le 7e et le 16e. Il faut savoir aussi qu'Arlette Laguiller a eu en soutien officiel des personnalités aussi médiatiques que Michel Denisot ou que Carl Zéro.
Et Madame de Fontenay aussi, il faut saluer ici.
La belle de Fontenay.
La belle de Fontenay.
Et il faut dire aussi, pour Arlette Laguillier, elle bénéficie d'un, ce que j'appelle entre guillemets, du phénomène d'ancienneté, puisqu'elle partage avec Jean-Marie Le Pen le fait d'avoir été déjà candidate sans interruption depuis 1974. Et je pense...
Le Pen ne l'avait pas été en 80.
Il était aussi candidat en 74 comme Arlette Laguillier. Et je pense, ça c'est une analyse, si sur le plan des sondages, Arlette Laguillier écrase Besancenot, je pense que si à la place de Besancenot, la Ligue communiste révolutionnaire avait présenté Alain Krivine, le rapport de force aurait été, je pense, moins en faveur d'Arlette Laguillier.
C'est possible.
Bon, c'est pas non plus notairement autour d'Arlette Laguillier. Ouais, je crois, parce que travailleur.
Mais là, je voudrais le professeur. Voudrais rappeler l'énorme responsabilité dans la popularité médiatique de Laguillier. L'énorme responsabilité du professeur Jean-Claude Martinez, qui fut le premier à l'appeler Arlette.
Oui.
Bon,
enfin, vraiment.
L'histoire jouera.
Je crois que c'est au Parlement européen que s'est passé cette anecdote.
Ah, c'était sur la SA5.
Ah oui, non.
Non, c'était sur. Permettez-moi
pas
de
tous
vous
ensemble.
Appeler Arlette.
Mais oui.
Or, là, ça a été la première fois où un trotskiste est sorti, a été accepté. Donc je maintiens, ça n'est pas une boutade de ma part.
Alors, passons la parole, si vous voulez bien, aux auditeurs.
Mais non, c'est pas les auditeurs,
ah non, vous vouliez dire quelque chose, donner des coups dans les comptes,
avez,
très mal.
Vous avez évoqué un certain nombre de candidats, même presque tous, mais vous n'avez pas du tout parlé de Jean-Pierre Chevènement. Or, j'ai entendu Jean-Marie Le Pen dire à la télévision qu'il verrait très bien un second tour Le Pen-Chevènement.
Je crois que Chevènement, on l'a fabriqué. Il est monté très haut dans les sondages, puisqu'il passait à un moment donné bien devant Jean-Marie Le Pen. Mais à l'heure actuelle, tenant compte effectivement des réflexions qu'a fait le président Madiran, des 3% dans un sens en plus ou en moins, je veux bien le connaître, il a quand même diminué et il est revenu, je crois, à une réalité qu'il représente. C'est pas plus de 7%. En plus 3 ou en moins 3, mais je crois que il n'apparaîtra pas, il n'est plus le troisième homme.
Non mais enfin.
Oui. Un commentaire sur Chevènement, Marie-Camille,
bon, vous souhaitez. On en avait abondamment parlé.
Je crois
que Jean-Claude a raison. Enfin, c'est une personne. Au début de la campagne, là aussi, il a été monté médiatiquement, comme l'a été Laguillier ensuite.
Non, puis surtout, il a fait campagne avant que Lionel Jospin ne se présente comme candidat. Donc, il avait...
Il occupait un terrain. Voilà.
Mais je pense qu'on peut s'attendre quand même, peut-être, c'est pas évident, à quelques surprises avec lui. Partant du principe que 42% des électeurs potentiels n'ont pas encore fait leur choix, c'est pas du tout impossible si les événements se précipitent à la vitesse du TGV Nanterre-Vannes ou d'autres événements de ce type, qui est une remontée de Jean-Pierre Chevènement.
Alors, c'est peut-être aussi évident que 75% des 42% n'iront pas voter du tout. Et là, évidemment,
surtout qu'en plus, ça tombe au milieu, ça on n'en a pas parlé, mais ça tombe au milieu des vacances de Pâques.
Pas de notre faute, hein.
On n'a pas voté. Et le second tour se passe entre le 1er mai et un pont comme on en voit rarement pendant plusieurs années, puisqu'on a le 7, le 8 mai qui sont fériés.
C'est un pont à la bouille.
Les gens qui iront voter à ce moment-là, ils seront très courageux.
Du reste, il y a cet événement quand même que je trouve assez particulier, d'avoir pu laisser justement la possibilité au président Le Pen de pouvoir s'exprimer entre les deux tours. C'est quand même extraordinaire, puisque le 1er mai, qui est la fête de Jeanne d'Arc, la fête du travail que propose Jean-Marie Le Pen par son discours, va influencer sur le second tour, ou à moins, à ce moment-là, s'il est deuxième, alors les choses, 100 000 personnes, place de l'Opéra.
c'est la fête du travail, mais la fête de Jeanne d'Arc, liturgiquement, elle est un tout petit peu plus tard quand même dans le mois.
Oui, mais on fait nombreuses années, depuis de nombreuses années, si vous voulez, le 1er mai a été quand même...
C'est vrai, mais il y a eu des années avant...
Oui, il y a le Libet, je suis d'accord, il y a d'autres
dates. Disons que le Front National unit la fête de Saint-Joseph.
Oui. En plus, oui.
De Jeanne d'Arc.
Non, vous voulez rien dire, Aurélie, non,
bon,
non.
Juste une petite remarque sur Chevènement. Il faut se souvenir qu'aux Européennes de 1994, on nous annonçait à Coréa Cri une surprise Chevènement aux Européennes. Et si mes souvenirs sont exacts, il a récolté quelque chose comme 2,83% des voix. Bon, là, je pense quand même pour lui, enfin, du moins, je l'espère pour son banquier, qu'il dépassera les 5%.
La banque Lazare.
Voilà. Il y a une tradition familiale, mais je pense que M. Chevènement va remplir, comme à son habitude, son rôle de baudruche.
Pas de commentaire sur...
Pas de miraculé de l'élection.
Ah, il a été une fois, il ne va pas récidiver.
On ne peut pas savoir, on saura le jour, quand l'élection sera passée.
Non, mais là, à quoi mais ça là, sert qu'on cause, alors
Jean-Pierre Chevènement, au début... Il a été effectivement monté en épingle, mais après, il a été complètement occulté. On ne l'a plus du tout entendu. Or, il parlait justement de faire appel à la droite. Et la Radio Courtoisie, par exemple, il y a un certain nombre de gens, de patrons d'émissions, qui soutiennent Chevènement.
Alors moi, je ne ferai pas de commentaires sur les patrons d'émissions de Radio Courtoisie. Nous avons entre nous une certaine déontologie qu'on se tire des bourres. Mais je dois dire qu'il y a toujours dans... J'ai beaucoup de tristesse qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont ralliées à la candidature de M. Chevènement, pour lequel j'avais de l'affection, peut-être même de l'estime. Bon, bah, ce sont... ils pensent se rouler pour Chevènement, mais c'est Chevènement qui les roule.
Oui, mais enfin, ce qui s'est passé, c'est que pour ceux qui suivent les sondages, comme le rappelait Victoria, Chevènement est parti très fort, ou a eu l'air de partir très fort, et qu'à ce moment-là, très fort, est en position de troisième homme, qui était l'idée lancée par Bayrou, que Bayrou voulait être le troisième homme, et qu'à ce moment-là, au moment où il s'est trouvé plus occulté, c'est parce que à la fois Jospin et Chirac ont pris peur à ce moment-là. Oui, alors, ils ont pu être rassurés c'est aujourd'hui, mais d'autre part, moi je ne suis pas étonné que dans une opinion hésitante, mal informée, etc., il y a quand même la note anti-européenne, entendons-nous, mais enfin la note anti-Maastricht et anti-Amsterdam que faisait entendre Chevènement, lui assurait un assez fort écho, précisément l'écho que vous avez remarqué à droite, mais c'est aussi Chevènement qui a donné un coup de barre contre son positionnement, contre le positionnement à droite qu'on lui attribuait. Et le coup de barre qu'il a donné a pu contribuer, indépendamment des efforts des autres, à le faire chuter, parce que c'est là qu'il aurait pu faire des voix.
C'est que les ralliés de droite à Chevènement n'ont pas été spécialement persona grata dans son staff.
Mais c'est ce que je dis.
Il
y a eu un moment précis, même, c'est assez vague, on parle il y a un moment précis où il leur a dit non.
Mais dans cette élection, il y a des choses très drôles. Si vous regardez, par exemple, dans le camp Chirac, je crois que c'est Claude Chirac qui avait poussé Bachelot à être mis en avant, Roselyne Bachelot, et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, ils sont en train, je m'excuse, mais de m'exprimer de cette façon-là, en train de la dégommer. Il faut quand même reconnaître que cette femme qui était pour le pacte, qui était pour l'avortement, qui était devenait le porte-parole de Chirac. Et je crois que là, on lui a demandé un peu de retourner en Maine-et-Loire.
Oui, c'est possible. Enfin bon, moi, j'étais pas très choqué par ce choix qui me semblait bien logique. Mais enfin bon, Emmanuel, vous trouvez pas ça très logique, non? Non, enfin, vous n'avez rien contre...
Dans la géographie intellectuelle et politique de Chirac, bien entendu.
Oui, de toute façon,
mais bien entendu, c'est que et de Claude Chirac et de tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a pu constater certainement. Oui. Mais en outre, c'est un personnage étonnant qui quand elle raconte, mais je crois qu'on avait parlé ici déjà, quand elle raconte que on la confond avec Anne Sinclair dans les restaurants et que ça lui permet quelquefois d'être mieux placée.
Elle rêve.
Elle rêve, hein. Et elle rêve politiquement aussi.
Puisqu'on parle de dames, moi je voudrais quand m'étonner un peu si quelqu'un a une explication de la placardisation totale d'Elisabeth Guigou.
Ah, mais son nom est attaché quand même. Son nom est attaché.
Non, mais dans la campagne de Jospin.
Et oui, mais son nom est attaché à des points vulnérables pour Jospin.
Aussi voilà. Bien. Est-ce que c'est cela?
Ah, je crois
je
que
demande
ça.
Des explications. Je crois que c'est ça. Est-ce que c'est justement parce qu'il y a la loi sur la présomption d'innocence?
La présomption d'innocence, c'est les 35 heures. Parce que
en plus, les 35 heures, elle en a plus hérité comme.
Elle a plus hérité, mais c'est elle qui gère la partie la plus
comme
difficile.
Comme le branchu
c'est
a hérité.
C'est elle qui gère la partie la plus difficile, celle où véritablement ça peut plus passer.
Il faut pas montrer le sucre à la diabétique, comme dirait le couple Chirac d'ailleurs, qui doit avoir un sacré diabète.
Ça se prouve qu'elle a un mal de chien à trouver une circonscription où elle est acceptée.
Elle a eu ça aussi. Et puis il y a le fait que Jospin prenne un accent de plus en plus personnel. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Pour la dernière histoire du Kalachnikov dans un commissariat, là, il a dit j'ai envoyé le ministre de l'Intérieur.
Oui.
C'est la première fois qu'il parle comme ça. Mais en fait, c'est une des premières fois. Il est en train de prendre ce langage-là.
Vu M. Vaillant à la manifestation quand les Bétarim ont poignardé un commissaire de police.
Non, on n'a pas vu. Il n'était pas là, il était ailleurs.
Il y a un sujet dont il faut parler.
L'occultation de certains faits
par la presse.
Oui, d'accord. Mais on va y venir, parce que je pense que là maintenant, on a fini de parler peut-être de la campagne présidentielle, encore qu'on va continuer à en parler.
À mon avis, c'est lié dans un arrière-fond.
Tout est dans tout et réciproquement.
On imagine si à Nanterre, ça avait été un militant, ex-militant du Front National ou du MNR. Qui avait tué 8 personnes et en blessant une dizaine d'autres à l'intérieur du conseil municipal. Or, ce monsieur, bon, on le répétera jamais assez, présent en a parlé, était trésorier de la section de la Ligue des droits de l'homme de Nanterre, membre des Verts et assesseur des Verts aux dernières élections municipales.
Ancien membre.
Animateur de la campagne locale des Verts, ancien membre du Parti Socialiste de 1995 à 1999, participant à l'occupation des sans-papiers de Saint-Bernard, à Gênes pour la manifestation anti-mondialiste en juillet 2001, et ce qui est quand même formidable, c'est qu'on nous dit par ailleurs que c'est un RMiste. Donc il se déplace à Gênes, il n'a pas de problème. Opération humanitaire au Kosovo, donc c'est un type parfait. On imagine qu'il y aurait eu 1,5 million de personnes dans la rue pour demander la dissolution du Front National ou du MNR.
Idem.
Ce qui se passe à Vannes. Un odieux raciste avec un chien loup dressé tire à la Kalachnikov, etc. Manque de peau, c'est un ancien du Front de Libération de la Bretagne, alcoolique, condamné pour
escroquerie. Si on est alcoolique, on n'est pas automatiquement d'extrême droite?
Là, ils sont qu'elle est bonne, Kamikalik.
Il faut peut-être demander à Pierre Mauroy. Bon. Et dernier élément qui est absolument sidérant, quand on voit la médiatisation qui avait été apportée au gendarme Nivelle, qui a été frappé mais qui s'en est sorti par quelques hooligans allemands, donc hooligans égale extrême droite, skinhead, etc. Et là, on a une manifestation dimanche, qui est une manifestation typiquement communautaire, et en plus de soutien à un pays étranger qui pratique la guerre civile sur son sol, pas sur le sol qui appartient à d'autres. Et on a un commissaire de police qui est poignardé, qui se
après
prend une lame...
Après avoir été gazé.
Après avoir été gazé, qui se prend une lame de couteau de 14 cm dans le corps... Et les journaux ne titrent absolument pas sur un commissaire poignardé dans une manifestation sioniste. Ils disent succès de la manifestation sioniste. Et puis en bas, en trois lignes, il est indiqué qu'un commissaire de police a été poignardé.
Bêtard.
Non, c'est pas forcément le bêtard.
Ça peut être
la Ligue de défense juive du rabbin Meir Kahane.
Le Monde parlait de la Ligue de défense juive.
D'ailleurs, sur le site américain de la Ligue de Meir Kahane, pratiquement, ils revendiquent l'acte.
Oui.
C'est pas le site de Kahane France. Mais c'est... Et ça, c'est absolument sidérant de voir deux poids, deux mesures.
Je pense que c'est un bon sujet de débat.
Oui, oui, mais c'est même pas, il n'y a même pas besoin de débattre, c'est évident.
Un petit rappel historique, puisque nous devons cultiver notre mémoire. C'est, quand vous disiez tout à l'heure, on aurait pu demander la dissolution nationale, l'Action française en son temps a été dissoute, non pas pour avoir tué qui que ce soit, mais pour avoir bousculé Léon Blum, qui voulait couper le cortège d'enterrement de, ou dont le chauffeur avait l'imprudence de vouloir couper le cortège d'enterrement de Jacques Bainville et qui s'est fait un peu bousculer. Dissolution de l'Action française. Sous la débonnaire ou supposée débonnaire Troisième République.
Et au sujet de Richard Dern, il faut rappeler que ce n'est pas le premier vert ou personnalité proche de ces mouvements à être impliqué dans ce genre d'affaires, puisqu'il faut se souvenir que le 4 décembre 1997, un conseiller régional vert du Nord-Pas-de-Calais, donc Alain Trédez, avait été arrêté pour le meurtre pour avoir poignardé à 51 reprises Patrice Guichard, qui avait les faveurs de Madame Trédez. Et il ne faut pas oublier non plus que le 8 novembre 1999, un conseiller municipal vert de HR, Monsieur Jean-Max Séry, est arrêté pour avoir braqué une vingtaine de magasins et de supermarchés et pour tentative de meurtre à l'encontre de deux agents de police dans l'exercice de leurs fonctions. Qu'en mai 2000, un autre militant écologiste des Pyrénées-Atlantiques est arrêté pour avoir volé sous la menace d'une arme un véhicule à une femme, avoir percuté 6 autres voitures, avoir fait du stock-car avec ce véhicule volé. Et en mai 2000, à Fontainebleau, un autre militant écologiste a lui aussi été interpellé pour avoir assassiné son grand-père sous prétexte de l'euthanasier. Donc on trouve qu'il y a quand même pas mal de récidives connotées sur un parti politique assez particulier, et que si l'un ou l'autre des deux partis de la droite nationale avait eu une certaine, je dirais, présence dans des faits divers de cette nature, je pense que la dissolution aurait été faite depuis bien longtemps.
Alors, comme vous proposez Orwell,
tous les hommes sont égaux et certains sont plus égaux que d'autres.
Alors vous proposez de dissoudre les verts, c'est ça en gros, quoi, non ?
Nous n'irons pas jusqu'à là.
Alors peut-être on peut passer, puisque bon, Emmanuel Ratti a commencé à embrayer légèrement sur ce sujet extrêmement délicat qu'il faut traiter avec beaucoup de prudence, la situation au Proche-Orient, qui est quand même, à mon avis, la situation au Proche-Orient qui est la question la plus brûlante de l'actualité.
Dégénérer. Je crois que le problème de la situation
Jean-Claude Varane.
Palestine-Israël, du reste on le voit, dans nos banlieues, si ça avait été le Front National qui avait brûlé des synagogues, là ça aurait été épouvantable, on aurait peut-être demandé la dissolution, mais je crois qu'il y a une montée de la part de jeunes islamiques qui va peut-être aller en s'amplifiant. Je crois qu'on est peut-être là sur une poudrière du Moyen-Orient qui peut se répercuter en France.
On avait dit qu'on aurait peut-être une situation à la Beyrouth, enfin à la Libanaise, mais c'est plutôt une situation à un territoire occupé d'Israël.
Surtout que vous avez entendu l'Égypte est en train de prendre position à l'heure actuelle. Vous allez avoir peut-être le monde arabe qui va peut-être aussi se révolter, et nous aurons des répercussions en France. Je crois qu'il faut être conscient que ce qui se passe, il y aura peut-être une montée de provocateurs islamiques qui vont amener le cirque ou le bordel en France.
Oui, mais enfin, attention.
Jean Madiran.
Attention, pour nous et pour nos lecteurs, ce n'est absolument pas une découverte. Parce que ça fait des années que nous disons que la France n'est plus libre dans sa politique, à supposer qu'elle puisse avoir une politique, n'est plus libre dans sa politique à l'égard d'aucun pays arabe, avec les 5 ou plus ou 8 millions d'arabo-musulmans qui sont, dont on peut ajouter que naturellement, c'est parce qu'ils sont travaillés par l'islamisme, etc. Mais enfin, bref, c'est leur présence qui fait que ça limite la liberté d'action de la France à l'égard de dans sa politique étrangère, et sous une menace extrêmement grave parce que ces communautés-là, l'État en décombre, l'État républicain en décombre, a consigne formelle donnée à ses policiers, à ses gendarmes, de ne pas les affronter. de ne pas les affronter. On voit bien que quand par hasard on arrête un délinquant ou un criminel, le commissariat risque d'être pris d'assaut par une trentaine de gars qui sont armés non plus de lance-pierres, maintenant mais d'armes de guerre de plus en plus lourdes. Alors il est bien évident que prendre éventuellement position contre l'Algérie, qui n'est pas au premier plan dans ce conflit, mais prendre position contre, si c'était la politique française, prendre position contre le... déclarer, d'ailleurs Jospin l'a mesuré, déclarer que parmi les Palestiniens, il y avait des attentats, les Palestiniens étaient coupables d'attentats terroristes, et il a été obligé de rectifier la position. Pour une raison, c'est une des conséquences et une des plus directement nuisibles à l'indépendance, à la liberté et même à l'existence de l'État français, cette énorme population. Là, du seul point de vue quantitatif, cette immigration sans limite, sans seuil numérique, nous place devant une situation qu'il faudra payer très cher. Et c'est pour ça que le président fait campagne pour que l'interposition, qu'on ramène ce qui peut nous rester d'armées françaises aux quatre coins du monde dans des missions humanitaires ou que sais-je, pour être prêt à faire de l'interposition en France, en tout cas.
Oui, mais enfin, moi, je crois que ce n'est pas une question de nombre. Parce que, par exemple, la communauté israélite en France est 10 fois, sans doute, inférieure à la communauté musulmane, arabo-musulmane. Et il suffit de lire les journaux pour voir que, lors des manifestations qui se sont déroulées en France, je répète, de soutien à un pays étranger, à une armée qui est en guerre, les policiers avaient ordre de ne pas intervenir, les caméramens et les journalistes ont été frappés, tout passant qui avait pas l'air d'applaudir a été frappé. On sait très bien, ça a été annoncé, on a vu des reportages disant que les lieux communautaires étaient protégés par des milices armées. Ce sont des gens qui ont tous les droits. Et pourtant, ils sont 10 fois moins nombreux que les musulmans en France. Donc je ne crois pas que ce soit seulement une question de nombre. C'est une question de démission de la force de l'État.
Je crois que ce sont des choses qui se complètent. Les uns ont l'influence, les autres ont le nombre.
Et tous les deux ont les armes.
Le résultat est le même, parce que vous disiez que la police avait l'ordre de ne pas intervenir dans les manifestations de dimanche de la République à la Bastille, mais c'est plus grave, puisque la police avait donné un avis défavorable, en tout cas à un défilé et ne souhaitait qu'un rassemblement et avait prévu, et le ministre de l'Intérieur a passé outre les recommandations des policiers pour donner satisfaction aux CRIF et aux organisations organisatrices et aux consistoires.
Le consistoire et le CRIF.
Henri Persan.
Oui, je tenais, puisque tout à l'heure Jean-Claude Varane a évoqué le Liban, je tiens justement à rappeler une petite phrase de 1982, justement lors de l'opération Paix au Galilée, qui était à l'époque organisée par le chef de l'armée israélienne de l'époque, qui était un certain Ariel Sharon, et qui avait dit en 1982, nous sommes prêts à déclencher une troisième guerre mondiale si celle-ci est nécessaire à la survie d'Israël. Je pense que cette citation, qui date de 20 ans, n'a pas pris une ride.
Alors, commentaire sur la situation, alors non plus en France, vu du point de vue français, mais du point de vue de l'observateur du Proche-Orient, que vous êtes tous.
Il y a un problème. J'ai lu l'autre jour, est-ce que nous allons pas, justement, dans ce conflit, comme on est en train de le dire, qui peut devenir un conflit international, il y a en sous-jacent, il y a le problème du pétrole. À l'heure actuelle, le prix du baril monte. Il est, je crois, à 28 dollars, enfin, je ne sais pas. Et j'ai lu très dernièrement que la Russie était maintenant en mesure de concurrencer le Moyen-Orient et, ne faisant pas partie de l'OPEP, de pouvoir vendre son pétrole moins cher que celui de l'OPEP. Est-ce que là, il n'y a pas aussi un phénomène d'une, peut-être d'une guerre économique, car il ne faut pas oublier que le pétrole fait partie de la guerre économique. Alors, je pose la question, je n'ai pas de conclusion, je pose la question que cette guerre économique du pétrole peut avoir des conséquences aussi dans ce qui se passe à l'heure actuelle.
Camille Gallic.
C'est fort possible. Évidemment, le pétrole de Russie n'a pas la qualité des hydrocarbures du Golfe ou d'Algérie, mais les ressources sont énormes. Et ça peut, de toute manière, tout ce qui se passe actuellement dans la Haute Asie, c'est toujours la poursuite du grand jeu pétrolier et le contrôle des routes du pétrole, d'acheminement du pétrole. C'est très important. Cela dit, moi je ne sais pas, parce que les pays arabes, avant qu'ils ne bougent, d'ailleurs on a vu à la télévision les Palestiniens hurlant contre leurs pseudo-frères arabes, contre l'indifférence des gouvernements arabes qui... Le monde arabe n'existe toujours pas quand même, il faut bien le dire, même si le roi du Maroc est par deuil vis-à-vis de ce qui se passe
il est loin, a annulé
les festivités du mariage et portait un badge pro-palestinien quand il a reçu le secrétaire d'État Powell, mais jusqu'à présent, ils ne bougeront que pour conserver leur trône ou leur pouvoir si les masses arabes les débordent complètement. Jusqu'à présent, ça ne s'est pas produit, mais je crois qu'il y a une solidarité depuis quelques mois, depuis le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme, qui est évidemment une guerre contre l'islam. On assiste, moi je m'en suis rendu compte, à une montée très nette du sentiment arabo-musulman dans les pays musulmans, qui conduit à une solidarité accrue avec les Palestiniens et avec l'Irak. Ça, qui n'existait pas encore il y a 2 ou 3 ans. Là, j'ai senti une solidarité très forte avec l'Irak. Et il est certain qu'on retombe sur l'affaire du pétrole. Saddam Hussein a très bien joué avec son histoire d'embargo sur le pétrole, qui est évidemment tout à fait... ça n'a pas grande importance. Mais ça le place, en tout cas... en vraiment totalement solidaire des Palestiniens, et ça lui fait un palladium, ça lui fait une protection en cas d'attaque américaine contre l'Irak. À propos de l'attaque américaine contre l'Irak, justement, comme National Hebdo, nous avons une interview de Le Pen cette semaine, et alors je ne sais pas s'il l'avait donné à National Hebdo, mais en tout cas il nous l'a donné comme scoop, en disant que d'ores et déjà j'avertis solennellement que si je suis élu, la France s'opposera à toute tentative d'opération militaire contre l'Irak, dont le but évident serait, sous un prétexte fallacieux, de renforcer la mainmise anglo-américaine sur l'arme du pétrole.
Oui, non, mais ce qui est évident, c'est que l'Irak est la prochaine cible. Les États-Unis sont en train de programmer il y a déjà des départs d'Afghanistan, il y a les usines d'armement qui tournent, et normalement, enfin d'après tout ce qu'on lit des observateurs, enfin, il suffit de prendre des revues militaires ou des choses comme ça, il y a une action qui ne se produira peut-être pas, mais ce qui est prévu, Bush a donné son accord, c'est une campagne de 3 mois qui démarrait en août 2002. Il y aurait d'abord une série de bombardements massifs, après il y a la destruction de Bagdad avec l'arrestation l'élimination de Saddam Hussein par quelque méthode que ce soit. la prise des principaux centres militaires qui existent encore et la nomination d'une nouvelle équipe. Et c'est vraiment ce qu'on voit. Bon, il y a l'Iran s'inquiète aussi, mais les États-Unis, bon, qui sont des lourdeaux sans doute, mais qui voient les grands problèmes et négligent les détails, à 80 ou 85% de chance, la prochaine cible des États-Unis, c'est l'Irak. Et ça devrait se produire d'ici peu. Ce qui est terrifiant, c'est de voir que, sans être devin, 3-4 mois avant, on peut dire la prochaine cible, c'est celle-là, parce qu'ils l'annoncent eux-mêmes. Bon. Et un des éléments intéressants, c'est qu'ils ont justement transmis des missiles et des matériels antimissiles à Israël pour pouvoir éliminer les rares missiles irakiens qui pourraient être tirés depuis l'Irak en cas d'intervention militaire contre l'Irak.
Mm-hmm. Voilà. Il y a aussi un phénomène.
Oui.
Pourquoi les Américains ne feraient pas accepter quand même par Israël les accords d'Oslo? Il y a quand même eu des accords à Oslo pour un pays d'Israël et pour un pays de la Palestine. Je crois que là, les Américains jouent un jeu très spécifique.
Bah, Sharon l'a dit. Voilà, il l'a dit en 2001. C'est nous qui exerçons la puissance aux États-Unis. Il l'a dit.
Notre ami Jean de Marie-Diran nous quitte parce que malheureusement il a rendez-vous. Je vous rappelais quand même le jour, le quotidien présent, c'est 5 rue d'Amboise, Paris 2e, et que je pense que
téléphone 01 42 voilà, 97 51 voilà. 30.
Pour 15 euros, en mentionnant cette édition, vous aurez un abonnement d'un mois.
Bravo, donc voilà, 15 euros, un mois de journaux.
5 rue d'Amboise,
Paris 2e, présent le quotidien. Henri Fersan.
Oui, je voulais revenir au sujet du pétrole. Parce que il ne faut pas surestimer, je pense, l'importance des pays arabes dans le marché pétrolier. Premièrement, parce que par rapport à la place privilégiée qu'ils avaient dans les années 70, la production des pays arabes a beaucoup décliné en matière de pétrole, puisque maintenant, dans les, je dirais, 10 ou 12 premiers producteurs mondiaux de pétrole, on ne trouve plus que deux pays arabes. Bon, l'Iran, je ne considère pas l'Iran comme un pays arabe, que deux pays d'Arabes, à savoir l'Arabie Saoudite au premier rang et les Émirats Arabes Unis qui, bon l'an mal an, se classent entre le 10e et le 12e rang mondial. Il y a eu l'émergence de nouveaux producteurs de pétrole, notamment la Norvège, l'Indonésie, la Chine. Et d'autre part, il faut...
Oui, mais ce sont de mauvais pétroles.
Et d'autre part, les dirigeants arabes ont certes leur mot à dire quant à la production pétrolière, mais ils sont soumis, entre guillemets, au couteau sous la gorge que leur imposent les multinationales pétrolières qui contrôlent, et qui font clairement comprendre aux dirigeants arabes que s'ils ne font pas la politique qu'on leur dit de faire, il peut leur arriver de gros ennuis. Ce qui est arrivé à un sultan d'Arabie Saoudite qui avait refusé d'augmenter les prix du pétrole, il me semble que c'était Faisal, qui avait refusé d'augmenter les prix d'eau pétrole et qui, quelques jours plus tard, a été opportunément assassiné par son neveu. C'est arrivé au Shah d'Iran qui ne voulait pas non plus augmenter le prix du pétrole et qui a eu les déboires que l'on sait ultérieurement. Et quant au sultan du Koweït qui avait refusé également de revoir les accords pétroliers que lui proposait la Mako, a eu une visite intempestive de son voisin du Nord, dont l'ambassadrice des États-Unis à Bagdad était comme par hasard une ancienne employée de la compagnie pétrolière en question. Donc je pense que la latitude de...
Avril Glaspie.
Et je pense que la latitude des pays arabes en ce qui concerne le pétrole, ils vont aussi loin que, si j'ose dire, que la laisse qu'on leur laisse.
Oui, c'est ce que je disais, que seulement ils ont leurs opinions publiques et ils tiennent à leur peau.
Voilà. Et bien ils ont des comptes à rendre aussi à d'autres personnes.
Puis je vous interromps une petite minute pour me tourner vers les auditeurs, et parce que beaucoup de messages sont arrivés. Pendant que vous devisiez...
Certains reviennent sur la campagne électorale. Franchement, les sondages sont faux. Quand on m'interroge, je dis que je vote Chirac, alors que je vais voter Le Pen.
Merci.
Non, mais il y en a énormément qui disent ça.
C'est vrai, il y en a
qui oblige, c'est tout le problème du redressement.
Ah, c'est très compliqué, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a des fourchettes qui sont énormes par rapport
à... Oui, non, mais c'est-à-dire que... Non, mais c'est pas seulement ça. C'est parce que si on prend un sondage brut, il doit y avoir à peu près 5% des gens qui osent déclarer, par exemple, qu'ils votent Le Pen, même s'il y en a 13 dans les urnes. Et on a toujours tendance à donner un vote plus honorable que celui qu'on pourra donner.
Il y avait des guillemets, ça c'est entendu.
Oui. Donc, les gens qui vont voter, peut-être la GIEC à la mode, mais par exemple Gluckstein ou des gens comme ça. L'exemple type, c'est que plus on monte dans les classes de la société, dans les groupes socio-professionnels, il y a de moins en moins de gens qui osent dire qu'ils votent Jean-Marie Le Pen. Quand vous tombez par exemple sur les médecins, il est à 0% chez les médecins dans un récent sondage. Bon, il est évident que plus d'1%, au moins, je pense que c'est plutôt de l'ordre de 10% des médecins, comme les autres classes de la population, votent sans doute pour Jean-Marie Le Pen. Mais ils ont honte de l'avouer parce qu'ils sont interrogés en tant que médecins. Pour le quotidien du médecin, ce genre de choses. Et vous n'aurez jamais un professeur d'université en exercice qui osera un jour déclarer qu'il vote pour Jean-Marie Le Pen. Mais à part deux ou trois exceptions.
Même si c'est Golnisch.
Bon. Et il n'osera même pas dire, tout le monde connaît la terreur qui est entretenue dans l'université. Donc, ils auront même tendance à dire qu'ils votent plutôt centriste Bayrou, voire Taubira Delannon, voire Jospin, même s'ils votent Jacques Chirac. Tout le monde le sait ici. Donc c'est vrai que ce genre de sondage...
C'est pipeau.
Oui, on avait d'ailleurs souligné le sondage du monde de l'éducation, selon lequel le Maigret et Le Pen n'obtenaient aucune voix, ce qui est totalement impossible, compte tenu du nombre d'enseignants au sein même du parti et parmi nos lecteurs, par exemple.
Il y a eu un sondage dans un lycée en Corse où Le Pen arrive en premier.
Oui, mais alors là, j'ai une... Non, il n'arrive pas en premier, il arrive en deuxième, mais avec 18% des voix, ce qui est énorme.
C'est-à-dire qu'il va au deuxième tour.
Oui, mais alors là, justement, j'ai fait un écho et j'ai eu une explication. Comme au parrainage de maire, donner in extremis à Le Pen en Corse. C'est le meurtre, enfin, l'agression suivie de mort de la jeune étudiante corse à l'île Rousse par un immigré marocain, qui a provoqué une manifestation de 1000 personnes à l'île Rousse, ce qui est énorme, et plusieurs attentats contre des maghrébins. Alors, je pense que ce drame qui s'est produit le 26 mars... Donc, in extremis a joué un rôle énorme en Corse.
Autre question ou remarque d'auditeur.
Vous dites que le candidat Le Pen n'est plus diabolisé. Mais le 17 avril, il va sortir un film féroce qui est tout à fait contre lui. Et dans ce film, Samy Nasseri ne touchera pas de cachet, est-il précisé ce jour-ci. Le réalisateur invité a fait part de salles prêtes à projeter ce film, même si le tribunal des référés interdit sa diffusion pendant la campagne électorale.
Premièrement, j'ai jamais dit que Jean-Marie Le Pen était plus diabolisé. J'ai dit que l'objectif numéro un des médias, ce qui est différent actuellement, parce que les médias sont aux ordres, on leur a dit c'est Arlette Laguiller. Bon. Et en plus, bon, le fait que Samy Nasseri joue là-dedans, je vois pas ce que ça a à voir. Parce que celui qui incarne Jean-Marie Le Pen, c'est Jean-Marc Thibault, le beau-frère de Lionel Jospin. Donc, à la limite, ce genre d'argument est ridicule, parce qu'on pourrait dire que il roule pour lui. Et le problème qu'il touche un cachet ou non n'a strictement aucune importance.
Et le réalisateur s'appelle Demestre.
Oui. Le référé aura lieu vendredi, puisque le Front National a demandé que ce film...
Approchez-vous.
Oui, le Front National a demandé que ce film ne soit pas diffusé trois jours avant le premier tour. Et on n'a pas demandé l'interdiction du film, mais on a demandé que l'interdiction se fasse avant le premier tour. Le référé aura lieu vendredi.
Vous avez vu que deux circuits de cinéma l'ont refusé, dont MK2, qui est le circuit de Marine Karmitz, l'ancien communiste.
Alors, il paraît que la communauté israélite aurait reçu l'ordre de soutenir Jospin, en échange de quoi Jospin s'engagerait à faire entrer Israël dans l'Union européenne. Allez, monsieur Ratier.
D'ailleurs, c'est le frère de ma, c'est le frère de ma concierge qui connaît le coiffeur qui coiffe Jospin, oui. Qui me l'a raconté. Oui.
Non, on n'a pas de commentaire.
Je rappelle que monsieur Saint-Josse, lui, veut faire rentrer le, a voté pour l'entrée de la Turquie dans le marché commun.
Bah, alors, y a une belle
ce président.
Là-bas,
Ce défenseur de la ruralité et des traditions.
Non, mais les arguments qui
il
sont
veut des paysans turcs en France.
Les arguments qui sont donnés pour justifier, par exemple, l'entrée d'Israël à l'intérieur de la communauté européenne, en période électorale, on trouve toujours des gens qui sont d'accord. On l'a vu aux dernières élections municipales à Paris, où Jean Berry a fait véritablement un pont d'or à la communauté israélite en leur offrant des terrains, en faisant rénover, en construisant des immeubles, etc. Ça n'a rien changé à sa situation. C'est exactement comme François Bayrou a effectué un voyage vers la présidence de la République en passant par Tel Aviv et Jérusalem. Bon, il n'a pas décollé dans les sondages. Bon, voilà.
Autre remarque d'auditeur.
Madame Gallic vient de dire, mais où est donc l'unité arabe face à ce qui se passe en Israël ? À côté de cela, où sont donc ceux qui, il y a quelque temps encore, nous parlaient du péril islamique en utilisant l'argument d'Alexandre Delval à la solde peut-être du Mossad. Moi, j'avoue, c'est du chinois pour moi.
Hein. Non, c'est pas du chinois, on comprend à peu près ce que ça veut dire, la question. Camille, vous avez peut-être une réponse à formuler à cette... Vous n'avez peut-être pas dit tout à fait ça, tout
enfin,
à fait ça.
Moi, nous avions quelqu'un à la manifestation pro-palestinienne. Moi, je suis allée faire un tour à la manifestation de... Betara du Crifo Betara du dimanche, mais nous avions le sourisseau à la manifestation palestinienne, mais ça revenait tout de même beaucoup contre la France, c'est-à-dire nous sommes les Palestiniens de la France. Nous sommes des exclus comme le sont les Palestiniens en Israël. Enfin, c'était donc la colère des beurs n'était pas dirigée moins contre Israël que contre les Français.
Et donc, les autres disaient, nous sommes les Israéliens de la France.
Voilà.
Mais sans doute avec une certaine satisfaction.
Mais vous savez, des manifestations comme ça, il faut faire très attention, car ça peut être une véritable bataille de rue entre les deux clans. Je voudrais savoir si le ministre de l'Intérieur, à ce moment-là, ferait quelque chose.
On a déjà la réponse. Hein.
Oui, ça c'est clair. Autre remarque.
Que pense M. Ratier de l'article de Paris Match concernant l'avion du Pentagone qui a bel et bien existé.
Alors là, je vais demander une chose à Emmanuel et à vous tous ici, parce qu'après tout, c'est moi le patron, on ne parle plus de ça. On va sur les sites internet, on s'éclate,
c'est le cas de lire. Voilà. Juste 10 secondes, il suffit de lire le prochain numéro de ma.
Bon voilà, dans le prochain numéro, on va donner les adresses et tout, donc avant la coupure, ne vous inquiétez pas. Donc vous trouverez tous les détails souhaités pour les avions qui vont dans les triangles des Bermudes, tout ça, vous trouverez absolument tout ce que vous voulez.
Il y a quand même juste quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. C'est qu'on ne trouve aucun débris. Et qu'on trouve les empreintes digitales des passagers.
Comme dit nos excellents confrères du Monde, les experts savent.
Allez, bon, écoutez, la vérité est ailleurs.
C'est beaucoup mieux.
La vérité est ailleurs. N'en parlons plus.
C'est beaucoup mieux que les empreintes digitales.
Allez, n'en parlons plus. La vérité est ailleurs. Vous connaissez, c'est un slogan de série télévisée. Non, vous ne connaissez pas.
Ce que l'on vient de dire est faux. Ce n'est pas la Norvège qui est la grande puissance pétrolière d'Europe, mais l'Écosse, grâce à son plateau continental qui possède la plus grande puissance pétrolière. Et à la suite du décès de la reine-mère, l'Écosse, par son Parlement, va faire valoir ses droits sur ses richesses nationales.
Oui, ça c'est vrai, mais la Norvège est aussi un gros producteur de pétrole.
Tout simplement parce que le plateau pétrolier de l'Écosse est aussi celui de la Norvège.
C'est le même.
Cette nuit... Enfin, à 4h du matin, sur Radio Londres, s'exposaient les difficultés faites à Tony Blair par certains éléments du Parti travailliste pour l'entrée de l'Angleterre à côté des USA, dont le projet d'invasion de l'Irak et sa destruction.
C'est vrai.
Enfin, ça ne devait pas quand même être sur Radio Londres. Parce que je crois que, c'est peut-être la BBC, mais Radio Longue n'émet plus depuis un certain nombre d'années.
C'est une traduction, c'est une
Je vais peut-être apprendre un scoop à cet auditeur, mais la guerre, elle est finie depuis 1945.
Ici, Longue.
J'étais à la manif pro-palestinienne, il n'y a rien eu contre la France.
Ça dépend où on se trouve dans le cortège.
Sauf contre ses dirigeants.
Oui, mais ça dépend. Les manifestations, je veux dire, on peut toujours, d'une manifestation, on peut en rendre un écho extrêmement différent. D'abord, c'est un peu comme l'auberge espagnole, c'est selon ce qu'on y apporte soi-même. Et donc, l'attention qu'on va prêter à un mot, à une expression, à un regard. Puis également, une manifestation, c'est quelque chose de très très long. Et donc, on ne peut pas être partout à la fois.
Le sourisseau a vu un drapeau français. Mais des centaines de drapeaux algériens qui n'avaient rien. Il y aurait eu le drapeau palestinien, c'eût été parfaitement compréhensible, voire le drapeau irakien par solidarité, mais les drapeaux algériens et les drapeaux kurdes, les bannières du PKK n'avaient rien à faire dans cette manifestation, en tout cas.
Oui. Enfin, il y avait quand même un drapeau français. Le lendemain, il y en avait combien? Il y avait combien de drapeaux français le dimanche? Je sais pas.
Oui, fort peu.
Fort peu.
Très très peu.
Je dirais que il peut y avoir eu des slogans hostiles aux dirigeants français et pas a priori hostiles contre le peuple français, mais il y a eu aussi des guerres qui ont été aussi par hostilité entre guillemets contre un gouvernement et pas contre le peuple du pays qui a pourtant pris beaucoup de dommages collatéraux, et que s'il y a des cris hostiles au gouvernement français, nous autres citoyens français, on peut aussi être transformés en dommages collatéraux, ce qui serait plutôt ennuyeux pour nous.
Camille, non?
Non, de toute manière, ce que je veux dire, c'est que la vague actuelle d'attentats antisémites, comme disait M. Chirac sur Radio J lundi, alors que ce ne sont pas des attentats antisémites, bien entendu, n'évite, n'ont pas du tout fait baisser le nombre d'attentats et d'attaques contre les Français, notamment contre les policiers français. Il y a eu des attaques de commissariat, il y a eu une émeute au tribunal de Bobigny.
C'est absolument tous les jours.
D'ailleurs, c'est un espèce de vase communicant, puisqu'à partir du moment où on met 1100 policiers de plus devant les lieux communautaires et les synagogues,
c'est toujours
c'est
ça
donc
moins
1100 qu'on aura, policiers de moins qui se retrouvent ailleurs. Or, tout le monde sait qu'avec la RTT, etc., les bureaux et les petits emplois dans le ministère, on manque de policiers sur le terrain. Donc,
C'est-à-dire qu'il y a un énorme centre communautaire juif près de Barbès. Il y a pratiquement plus de policiers à Barbès. Les policiers sont autour du centre communautaire. Et les délinquants, actuellement, les délinquants et les dealers de Barbès ont voie libre.
Notre émission commence à se terminer. Alors, je voudrais d'abord qu'on fasse un petit tour de table pour présenter les journaux, comme je pense que c'est l'usage. Hein. Donc, vous voyez, je ne faillirai pas à l'usage. Donc, je rappelle quand même, puisque notre ami Jean Madiran nous a quittés jusqu'à dans un mois, que Jean Madiran donc dirige le quotidien Présent. Le quotidien Présent, c'est 5 rues d'Amboise. C'est un quotidien français. 5 rues d'Amboise, Paris, deuxième, donc on peut dire, puisque comme il y a un troisième arrondissement derrière, il faut mieux dire deuxième. Et il propose donc un abonnement de découverte, peut-on dire, pour un mois, c'est-à-dire une vingtaine de livraisons, je pense, à 15 €. Ce qui même, en francs, fait pas cher non plus. Hein, donc voilà. Donc 15 €, alors vous envoyez votre chèque, Présent, 5 rue d'Amboise, Paris 2e. Dites que vous avez écouté l'émission de Radio Courtoisie, que vous avez entendu Jean Madiran sur Radio Courtoisie. Il sera tout à fait enchanté de vous faire ce service. Monsieur de Fersan, vous allez donc nous faire la propagande pour le premier titre, et puis après on va faire d'autres, puis vous reviendrez pour le deuxième.
Ok, tout à fait. Sujet double casquette aujourd'hui. Donc, on va commencer par
le vôtre. Ah non, comme on terminera par Serge, non, ce serait plus galant, non?
Oui, bon, comme
oui, bon. Allez, commencez par le vôtre.
Donc, les lettres Fersan. Alors, l'adresse boîte postale 18, 63 670 Le Cendre. Cendre comme de la cendre de cigarette. Et l'abonnement est de 18 € par an.
Alors 18 €, ça paraît tous les
mois.
Tous les mois.
C'est un mensuel.
Camille, Rivarol.
Oui, eh bien, dans le...
Vous pouvez donner aussi un téléphone, hein, si vous souhaitez.
Le...
Pas vous
comme
gêner,
on le sait, on paraît le vendredi. Alors, je voudrais dire que dans le dernier numéro, on n'a pas eu le temps d'aborder la question, mais il y a un article d'ADG qui a vécu longtemps en Nouvelle-Calédonie, et ça, à nouveau, ça va très mal en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a un article sur la tentative de meurtre d'un colonel qui a été longtemps entre la vie et la mort, qui semble maintenant sauvé. On a donc l'interview de Le Pen, Chirac, Maigret, Irak, Le Pen à cœur ouvert. L'attitude des États-Unis entre Belgrade et Bethléem, toujours le poids des mesures. Et j'ai fait l'édito justement sur la situation, enfin pas la situation, les prolongements en France de la situation au Proche-Orient sous le titre « La République éclatée ». Et on peut se procurer ce numéro dans tous les kiosques, mais si on veut un exemplaire gratuit, on peut téléphoner au 01 53 34 97 97.
Vous allez nous redire ce numéro de téléphone pour qu'on ait les auditeurs aient le temps de le noter.
01 53 34 97 97. C'est un numéro gratuit, ainsi qu'on peut envoyer un numéro de notre revue Écrit de Paris ou sur internet rivarol.com.
Alors www.rivarol.com.
Rivarol.com.
Qui, d'après ce que je sais, les Écrits de Paris ont un article très intéressant sur les attentats aux États-Unis.
Du World Trade Center, qui est signé Castello. Très intéressant, oui. Je le recommande.
Cher camarade Varane.
Oui, bien, National Hebdo, nous avons, nous, là, un numéro spécial sur les présidentielles, où nous avons titré « Le changement, c'est Le Pen ». Le prochain numéro sera « Voter utile, voter Le Pen ». Et naturellement, ces deux numéros pour les auditeurs de Radio Courtoisie, nous les offrons gratuitement. Ils auront qu'à téléphoner ou à écrire 4 rue Vauguyon, Saint-Cloud, 92210, ou téléphoner 01 41 12 04 14. Merci.
Merci, Monsieur Varane. Monsieur Ratier, alors, faits et documents.
Donc, faits et documents, BP 254-09.
C'est affreux à raconter. 254-09.
75-424, Paris CEDEC 09.
Voilà.
75-424, Paris CEDEC 09, où il y a un système pour les gens,
oui,
qui ont un accès à Internet. Vous faites www.faits-et-documents.com. Ça vous permet d'avoir accès à pas mal de numéros qui sont en libre accès, et surtout de vous abonner à ma lettre gratuite qui est envoyée 3 fois par semaine, qui est un supplément. Du supplément papier, du journal papier.
Ouais, c'est vraiment, c'est très très.
Et j'enverrai un numéro, là, le numéro qui sort, un numéro à nouveau consacré sur les aberrations du crash d'un avion sur le Pentagone. Donc j'ai déjà fait un numéro il y a 2 mois, avant la sortie du fameux livre de M. Messant. Et donc je refais un numéro dessus, où je relève pas mal de problèmes.
Nous le lirons avec intérêt. Alors maintenant, le libre journal de Serge de Beketch.
Donc le libre journal de la France courtoise de Serge de Beketch, 4 places. France Litz, 75-010, Paris.
Voilà, vous pouvez demander un spécimen en mettant quelques
tas. Aux auditeurs et auditrices de Radio Courtoisie.